Voilà, un autre dimanche de Pâques. C'est bien sûr pour certains d'entre nous des décennies et des décennies que l'on célèbre Pâques. C'est une fête qui est unique en quelque sorte dans l'histoire, parce que Pâques nous parle à la fois de l'amour et de la vie. La mort est une réalité universellement connue dans le monde entier. Tout le monde y croit. La mort est une réalité qui nous guette et qui nous piège et qui nous fait peur. Le message de la vie est moins connu. Même les apôtres avaient du mal à y croire. Thomas a dit en effet, si je ne vois pas les marques des clous et la blessure dans son, je n'y croirai pas. Nous sommes peut-être aussi parmi ceux qui parfois doutent de la résurrection. Pas la doctrine, la réalité, comment ça s'applique à la vie. Je suppose que ce matin, s'il est question de passer un foyer pour marquer, est-ce que vous croyez à la doctrine de la résurrection ? Tout le monde serait d'accord. Mais quant à la réalité de la résurrection, comment ça doit transformer la vie, on a beaucoup plus de mal à y croire. Bien que le dernier ennemi de l'homme soit la mort, nous dit Paul, elle n'aura pas le dernier mot sur notre vie. Grâce à Dieu, la victoire finale sur la mort est déjà proclamée et assuré à l'avance par la résurrection de Jésus-Christ. Et quand les premiers disciples sont revenus de leur sortie de Jérusalem pour apprendre en effet que Jésus est ressuscité, ils ont dit, c'est bien vrai, le Seigneur s'est bien réveillé de la mort. Peut-être avez-vous parfois un sentiment de culpabilité, de crainte de la mort, ou peut-être d'être excessivement ou fortement attristé par le décès d'une personne, d'un membre de la famille. Il ne faut pas se culpabiliser. La mort est un ennemi, heureusement le dernier. Et nous avons droit de pleurer. Et nous avons droit de trembler. Il faut prendre l'ennemi au sérieux. Ce n'est pas une petite affaire de mourir. C'est quelque chose qui nous guette. Et nous lisons dans l'Évangile que Jésus, au moins, a pleuré deux fois. Et dans les deux contextes, c'était au sujet de la mort. C'était le décès de Lazare, et Marie et Marthe qui pleurent. Et Jésus pleurait avec elle. Est-ce qu'il pleurait de manière, comment dit-on, pour communiquer un message, ou est-ce qu'il pleurait parce qu'il était attristé? On peut débattre l'affaire. Mais il était comme nous, et je crois qu'il ressentit le poids de la mort. Une deuxième fois, c'est un peu plus abstract, quand il arrivait à Jérusalem le jour des dimanches des Rameaux. C'est que deux fois que Jésus a pleuré, enfin, l'Évangile nous le dit, il pleurait sur Jérusalem. Et pourquoi? Parce qu'il savait, dans quelques peu de temps, cette ville sera rasée, et des milliers, et Joseph, l'historien dit, des dizaines de milliers de Juifs assassinés. Et lui, parce que vous n'avez pas reconnu le moment où votre sauveur est venu. Jésus pleurait sincèrement sur la ville de Jérusalem. Je me souviens du décès de ma maman. Elle est venue nous rendre visite à la maison à l'époque. Et deux mois après, elle nous appelle pour dire qu'elle avait un cancer du sein et bien avancé. Et nous étions quasiment On croyait qu'elle n'allait pas survivre ce cancer, et c'était le cas d'ailleurs. J'ai pu me rendre aux États-Unis pour lui rendre visite à l'hôpital. Très croyante, elle s'est convertie après ma conversion. Et après, elle s'est fait baptiser, elle suit le Seigneur de manière très très sincère. Et j'étais là à l'hôpital à ses côtés, maman, tu sais que la mort s'approche. On a pu parler ouvertement. Elle dit, j'en suis au courant. Mais je suis certain que le Seigneur est avec moi. Et donc il y avait des larmes, bien sûr, lors des obsèques, mais pas des larmes comme le monde. J'aimerais lire un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où Paul nous dit, « Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes ou attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est révélé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra. Nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra en signant la voix du chef des anges et le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Ce n'est pas toujours facile de laisser pénétrer le message d'encouragement. C'est plus que des mots, c'est plutôt une question de méditer ces paroles dans une relation avec le Seigneur. Je crois que toute notre vie de chrétienne dépend en grande partie de cet entretien quotidien avec le Seigneur. Il faut plus que affirmer les doctrines. Il faut comprendre ce qu'on croit dans un contexte de relation. Des fois, nous avons l'occasion de fréquenter des églises non évangéliques, si on peut le dire, où les personnes ont l'habitude de la liturgie et des rites et des cérémonies. J'en étais pasteur d'une de ces églises pendant un an. Et une grande paroisse ici en France, à Montauban, avait 1200 membres sur le registre de l'église. Et pendant cette année, j'avais 2 décès en moyenne par mois. Et chaque fois il y avait un décès, l'église était bien, pas complètement pleine, mais pas mal. Il y avait 500 places d'ailleurs dans l'église. Mais le dimanche matin, on était à environ entre 40 et 50 personnes dans une église de 500 places. Et la question se demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que l'église soit vide? Qu'est-ce qui se passe pour que le message de la victoire sur la vie ne se résonne pas? Pourtant, pour une question de mort, l'église était pleine. Tout le monde y croyait. Mais il y a une question de comprendre que le Seigneur a vaincu la mort. Il nous propose non seulement une vie après la mort, mais une vie déjà avant de mourir. Je pense que c'est le point que j'aimerais souligner tout à l'heure, que la résurrection est plus qu'une doctrine qui a un rapport avec l'avenir. C'est une doctrine qui a une réalité actuelle. Et les historiens de l'Église qui ont bien étudié le premier siècle pour demander mais qu'est-ce qui a donné à l'Église cet élan? C'était la résurrection. Les historiens sont convaincus, les théologiens même, que le message était un message unique. Et ce message résonnait à un point où les gens étaient emballés, en quelque sorte, par ce message et qui a contribué en grande partie pourquoi le christianisme, le message de la croix, a été reçu avec autant d'ampleur. Aujourd'hui, on n'y croit pas trop. J'ai suivi une émission sur l'Internet l'autre jour au sujet de l'épée nordique, scandinave, Danemark, Suède, etc. Et aujourd'hui, 60% des Danois ne croient pas à l'existence de Dieu, sans parler de la vie après la mort. 70% se disent non-croyants en l'existence de Dieu. Et ça, c'est à peu près vrai pour tous les pays nordiques. Autrefois, c'était l'inverse. Et nous savons que dans notre beau pays de la France, on n'est pas trop loin. Que l'incrédulité commence à prendre une place très, très importante. J'ai demandé à notre petit garçon de voisin, dont les parents ne sont pas ne sont pas du tout croyants. Et il y a des demandes hier jour. Tu sais que demain c'est Pâques? Il dit oui, je sais. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est Pâques? C'est des chocolats. Il n'y avait aucune idée de. Il s'agissait d'une personne qui s'appelle Jésus, qui est ressuscité. Il a dit des chocolats et on va faire ceci et cela. C'est un garçon qui représente une bonne partie de notre société. La résurrection est une réalité. Il fallait du temps pour en être convaincu. Et cette réalité a transformé et transforme encore beaucoup de vies. Le texte que je viens de lire nous parle de l'espérance. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Aucune espérance. Sans espoir. Et on peut bien comprendre pourquoi beaucoup de gens sont déprimés face à la réalité. Je fais partie d'un club de vélo et nous arrivons à un certain âge. Ce sont des amis qui sont ensemble depuis 30 ans, qui roulent une ou deux fois par semaine, mais aujourd'hui, la moitié ont plus de 80 ans. Deux sont déjà décédés. Et les autres se demandent combien de temps ça va durer. Ils ont tous adopté un vélo électrique assisté. Moi, j'y résiste encore. Mais on y pense. Et des fois, nous sommes là, cinq ou six, pour sortir pour la journée. Et quelqu'un dit, oh, j'ai mal à la hanche. L'homme s'est fait opérer à la hanche il y a quelques semaines. Et d'autres, un genou, un autre genou, et d'autres, le cœur, ils ont des machines pour mesurer le cœur. Et comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, on a mis un stent en moi pour que je puisse encore continuer. Et je disais à Michel dans le groupe, mais Tom, est-ce que tu as entendu parler de Dr. Soulan? J'ai dit non. Il est mort. Et c'est quoi? Je devais avoir rendu avec lui dans quelques semaines. Oui, il est mort. Il était dans son cabinet et entre deux clients. Un client est sorti du cabinet et l'autre d'entre eux, il était déjà par terre et mort. Un AVC brutal. La mort. d'une réalité. Et que faire lorsqu'on n'a pas d'espérance? Que faire? Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Nous y croyons, je suis sûr. Mais il faut que cette conviction descende jusqu'au bout de nos ongles, pas seulement avec le cerveau, mais avec nos pieds et nos mains. Et on va en parler. Pour souligner la victoire de notre Seigneur sur la mort, Paul nous en parle dans l'Épître aux Romains. Nous sommes sûrs que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est une affirmation de Paul à maintes reprises dans les Épîtres, mais d'une manière ou d'une autre. Et pour souligner, nous sommes sûrs que rien. Il nous donne quelques idées amplifiées de cela. Deux fois dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Nous sommes sûrs que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni la souffrance, ni la faim, ni la pauvreté, ni les dangers, ni la mort. Et puis, quelques commentaires de plus sur cela, et puis, en arrivant à la fin du chapitre 8, il le répète, mais avec une liste encore plus longue. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni les pouvoirs, les forces d'en haut, les forces d'en bas, ni toutes les choses cachées ou créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Paul a raison de se rappeler ces vérités pour lui-même, parce qu'il va en payer le prix de ses convictions. Mais quand il arrive à la fin de sa vie, on voit un homme debout. Peut-être ça vaut le mieux. Citer ce texte. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me le donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. C'est-à-dire, c'est ce qui nous attend. La victoire sur la mort est une promesse et une réalité pour l'avenir. Mais c'est une réalité aussi pour le moment actuel. Et ça, c'est peut-être moins facile à comprendre ou à saisir. Oui, tout le monde croit que après la mort, pour nous qui croyons, nous serons aussitôt dans la présence de notre Seigneur. Mais Paul veut nous dire qu'il faut que cette réalité prenne racine pendant votre vivant. Et c'est là que nous disons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. » Il parle des personnes vivantes, donc ils ne sont pas encore mortes. Mais toutefois, ils sont morts. Dans le sens qu'ils ont dit non à deux vies et oui à la vie de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qui meurt d'abord à soi-même, c'est une mort. Qu'il accepte le prix de me suivre et qu'il me suive. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non pas sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort sans mourir physiquement. Vous êtes déjà passé par la mort. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui. Vous participerez à sa gloire. C'est une manière abstraite, parce qu'on est encore en vie. Mais celui qui se livre à Dieu, celui qui donne le premier pas dans sa vie, il est déjà ressuscité. Notre Seigneur disait cela dans la parabole du grain de blé, Jean chapitre 3, 12. Le grain de blé, oui, je vous dis la vérité, le grain de blé tombe dans la terre, doit mourir, sinon il reste seul. Et s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Celui qui aime sa vie la perdra. Et si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera la vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Il lie la vie présente avec la vie à venir. Et le Seigneur nous propose déjà la résurrection, une vie de résurrection. Surtout, il souligne cela, enfin, Paul souligne cela dans l'Épître aux Romains. J'aimerais lire quelques versets, Romains chapitre 6. La puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Maintenant, pas seulement une vie parfaite auprès du Seigneur, mais que nous vivions d'une vie nouvelle. Mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Comme des vivants revenus de la mort. Sommes-nous ressuscités? Est-ce que vous nous donnez l'impression que nous vivons déjà de cette réalité? Bien que nous sommes en train de mourir, nous sommes vivants. Et cette vie que le Seigneur nous donne dépasse la mort, dépasse la vie inutile. Beaucoup de gens aujourd'hui sont meurent d'ennui. La vie n'a plus de sens. Un des membres du club est venu l'autre jour, il me dit, oh, je suis déprimé. Ah bon, parlons-en. Et je dis, qu'est-ce qui te déprime? Il a 87 ans, membre du club. Il a déjà un cancer de la prostate, il a déjà d'autres difficultés, et il sait que ses jours sont comptés. Et donc j'ai essayé de lui parler un peu au-delà du fait que nous allons bientôt mourir, mais jusqu'à présent il reste résistant à cette idée de croire. Les catholiques, il va à l'église quelques fois dans l'année, mais pas plus. C'est comme si je lui demandais, est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Il me dirait, certainement, je suis catholique. Pas sûr. Mais cette idée que Jésus soit ressuscité et qu'on puisse avoir une vie nouvelle ne lui rentre pas dans l'esprit. Il n'y a jamais pensé. Nous ne sommes pas, j'espère, de cette négligence, mais c'est étonnant combien de fois nous, les chrétiens qui croient à ces doctrines, n'arrivons pas à vivre d'une vie nouvelle. Il y a trop de l'ancienne vie en nous. Mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. J'ai une pratique que j'exerce depuis peu après ma conversion. C'est quelqu'un qui m'en a appris. Comme tu dois rechercher la face du Seigneur tous les jours. Bon, ok, d'accord. Je ne savais pas dans un premier temps ce que ça veut dire. Mais tu lis la Bible et tu pries. J'ai dit d'accord. Donc, au début, ce n'est pas évident. La Bible, on ne comprend pas trop. Je n'ai jamais vu la Bible jusqu'à avant ma conversion. Je n'ai jamais lu la Bible. Je n'avais pas de Bible. Je commençais à lire. Et je comprenais un peu et je comprenais beaucoup moins. Mais j'ai dit, ça comme m'a dit, je dois lire la Bible. Tu verras, ça t'aidera. Et j'ai persévéré dans cette pratique encore aujourd'hui. C'est la chose qui peut-être qui m'oriente tous les jours le matin. Dès le matin, je recherche le Seigneur. Et à force de lire la Bible avec un intérêt de mieux le connaître et de comprendre ce qu'il veut me dire, je me sens encouragé. Et je prie. Parfois, je prie un bon moment et parfois moins. Mais je prie, je pense, je réfléchis. Et sans que je comprenne tout à fait ce qui se passe, je sais qu'aujourd'hui, plus de 60 ans après ma conversion, je suis encore debout. Et pas grâce à moi. Mon espérance est plus forte que jamais. Pas parce que je suis de nature très croyant, mais que la vérité a fait un travail en moi qui passe par la lecture de la parole, par la prière et par la fréquence. Je fréquente l'Église, pas par d'habitude, mais par conviction. Nous avons besoin de nous rencontrer constamment parce qu'on vit dans un monde d'incrédulité croissante. Moi, où est ta victoire? Ça, c'est la fin de 1 Corinthiens 15. Je lis à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous, nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Il ne faut pas que la mort ait victoire sur nous. Pas seulement sur le plan après la mort, après la vie, mais maintenant. Il ne faut pas que la mort ait une victoire sur nous actuellement. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton âme? L'âme de la mort, c'est le péché. et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est notre vocation. Nous ne sommes pas là pour être servi, mais pour servir et donner notre vie pour le Seigneur, parce que nous sommes déjà ressuscité. Nous avons une force qui dépasse la mort, qui dépasse la dépression, qui dépasse tout ce qui pourrait nous menacer. Il faut que chaque jour, cette force soit renouvelée dans la présence du Seigneur et par la prière et par l'obéissance. Prions ensemble. Père, merci de nous rappeler ce matin que tu es vivant et que tu nous proposes aussi une vie vivante. Nous voulons, Père, vivre de ta présence. Nous voulons que notre vie soit une expression visible de ta présence. Aide-nous à être témoins de la résurrection par notre vie. Et que tu prie, Seigneur, nous accompagner et nous fortifier chaque jour pour la gloire de ton nom.